À partir du printemps 2020, les 46 écoles d'art du pays ont progressivement rejoint un mouvement MeToo propre à ce secteur. Et l'une des premières à s'être mobilisée, c'était l'école des Beaux-Arts de Rennes à travers le compte Instagram Les Mots de Trop. Plus de 400 témoignages de violence y avaient été recueillis. Une des rares fenêtres ouvertes sur ces établissements, des écoles un peu à part dans l'enseignement supérieur. Au départ, il y avait des ateliers de peinture et de dessin qui se sont peu à peu institutionnalisés. Les académies royales de peinture et de sculpture sont, elles, fondées au XVIIe siècle par Louis XIV et seront remplacées par l'École nationale supérieure des beaux-arts à Paris. On est en 1819. Des initiatives locales suivront ailleurs sur le territoire. Aujourd'hui en France, les écoles d'art sont reliées aux beaux-arts, mais aussi au conservatoire, à l'université, à des écoles privées pas toujours reconnues, parfois à des BTS et des DUT, formations plus courtes. Un peu plus de 10 000 personnes y étudiaient en 2018 les arts plastiques, appliqués, du spectacle, mais aussi la danse ou la musique. À Rennes, on peut citer l'ESSAB, l'École Européenne Supérieure d'Art de Bretagne, qui regroupe en fait 4 établissements depuis 2010, les écoles supérieures d'art de Rennes, Brest, Lorient et Quimper. On compte près de 900 étudiants sur ces bancs, ce qui en fait la première école d'art de France. Alors qui sont ces étudiants? Quel est le cœur de la formation? C'est sûrement plus complexe que d'apprendre aux élèves à être artistes. L'école est-elle d'ailleurs là pour professionnaliser ses étudiants? De quelle manière se tissent les relations entre élèves et enseignants, là où les pratiques artistiques reflètent l'intimité de ces auteurs? Enfin, les écoles d'art ont-elles changé avec la numérisation de nos sociétés? Éléments de réponse tout de suite, bienvenue dans Chercheurs en ville. Aujourd'hui dans Chercheurs en ville, émission consacrée à la recherche, on reçoit Christine Lapostole, bonjour.
Bonjour.
Vous avez une formation d'historienne de l'art. Le thème de votre thèse, c'était les représentations du désert dans les peintures du 14e et du 15e siècle. Vous enseignez aujourd'hui à l'ESSAB de Quimper. C'est l'École européenne supérieure d'art de Bretagne. Et votre réflexion, elle porte sur le langage et la pratique de l'écriture. Dans cette émission, vous répondrez aux questions de Colette David. Bonjour Colette.
Bonjour.
Et juste à côté de vous, Colette, il y a Christian Lebar pour la Maison des sciences de l'homme en Bretagne et professeur de sciences politiques. Bonjour Christian.
Bonjour Lucie, bonjour à tous.
Colette, je vous laisse la parole.
Votre livre École d'art, que vous orthographiez E-C-O-L-D-A-R et que vous sous-titrez Portrait du Nil, ce livre, ce n'est pas un roman, ce n'est pas non plus un reportage journalistique au sein d'une école d'art, ce n'est pas une étude sociologique, ce n'est pas non plus l'album de vos meilleurs ou pires souvenirs d'enseignante. Mais c'est un peu de tout cela. On suit la narratrice, que vous appelez Elle, et qui semble être votre double littéraire, et on feuillette aussi le journal d'un étudiant. Et tout ça donne un texte formidable, vraiment remarquable, qui est sensuel, qui est subtil, qui est profond, qui est souvent drôle, qui donne à réfléchir, qui rappelle des souvenirs, parce qu'on a tous été à l'école et parfois à l'université. C'est un texte qui déborde de vie et personne n'a dit que la vie était facile. Christine Lapostole, quel était votre projet en écrivant École d'art?
Alors, je ne suis pas vraiment sûre que j'avais un projet. J'avais plutôt une sorte de malaise, étant déjà à l'époque enseignante dans une école d'art depuis longtemps, dans le fait d'être très impliquée, hein, comme la plupart des gens qui travaillent dans les écoles d'art, mais de ne pas vraiment me retrouver dans le discours dominant, à un moment où beaucoup de choses changeaient dans les écoles d'art. Et l'idée, tout doucement, m'est venue de chercher une forme spécifique, hein, qui serait celle de l'endroit littéraire d'où je pourrais essayer de dire au plus juste ce que je voyais depuis la place qui m'était donnée dans ce petit monde des écoles d'art. avec au départ des idées qui n'ont pas pris forme dans le livre. Enfin, ça a été assez compliqué d'ajuster la forme. J'aurais voulu un livre en fait plurivox, enfin, mais simplement trouver les gens qui sont disposés en même temps, au même moment que vous, à écrire un livre de ce type-là, simplement ça n'a pas été possible. Et donc j'ai macéré dans ma recherche de forme, et puis à force d'insister, d'essayer des choses, d'en abandonner, ça a pris la voie qui a donné ce livre.
Le livre est sous-titré « Portrait d'une île ». Vous avez choisi l'image de l'île. L'école est une île. Pourquoi ?
Alors, l'école est une île. Alors, l'île, elle me permettait justement de dire tout de suite au lecteur ce léger déplacement qui fait qu'on n'est pas dans la fiction, mais on n'est pas non plus, comme vous l'avez dit, dans la chronique journalistique, enfin dans le documentaire. Donc la métaphore de l'île, tout le monde la connaît, on la comprend tout de suite. Et par ailleurs, j'habitais le Finistère, l'objet principal, le support de cette écriture, c'était l'école de Quimper. Donc l'imaginaire de l'île, il est vraiment présent. On a des étudiants qui ont vécu sur des îles, enfin l'île n'est pas loin. Et donc peut-être que si j'avais été à Chambéry, ça aurait été la montagne, hein, mais c'était proche, et en même temps ça permettait tout de suite de dire qu'on est un petit monde quand même quand on est dans le monde des écoles d'art.
Vous dites tremplin, vous dites une branche sur laquelle se poser pour scruter alentour, et on y reviendra bien sûr. Christian Lebar.
Oui, le monde des écoles d'art est un monde un petit peu à part dans le paysage de l'enseignement supérieur. Et malgré ça, je trouve que, là je parle en tant qu'enseignant, vous réussissez à donner à voir la relation pédagogique, la condition étudiante et la condition enseignante, professorale, d'une façon qui est, je trouve, tout à fait remarquable. Et je me demande le lien qu'il y a entre cette réussite et la forme que vous adoptez. Colette en a déjà un petit peu parlé, c'est-à-dire le fait d'entrecroiser des points de vue d'enseignant, enfin le point de vue de l'enseignante que vous êtes, et puis des extraits, alors dont on a envie de vous demander s'ils sont effectifs ou fictifs, d'un ou plusieurs. Étudiants qui sont qui donnent leur ressenti. Donc est-ce que cette façon d'écrire l'art relève elle-même un peu de la recherche ? Est-ce que cette modalité un peu expérimentale pour rendre compte du vécu dans l'école, est-ce que ça participe un peu d'une forme d'écriture expérimentale ?
Eh bien, si on peut reprendre le mot « recherche » au monde universitaire, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans la recherche universitaire, mais moi je dirais que chacun des livres que j'ai fait, je pourrais le défendre comme étant une recherche, une sorte d'exploration. Voilà, le langage permet des choses, allons-y, quoi. Et là, effectivement, je cherchais comment dire quelque chose que je n'entendais pas dans les choses que les autres pouvaient dire ou écrire. C'est peut-être un peu prétentieux de dire ça, mais enfin bon, chacun a une perception et il peut avoir envie d'en rendre compte, hein, que je trouvais pas dans ce qui était déjà là. Donc oui, je peux défendre l'idée que c'est une forme de recherche, que pour moi l'écriture est une forme de recherche.
Et alors sur le dispositif polyphonique, là, sur les extraits, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ?
Écoutez, oui, je peux vous en dire un peu plus. Je ne suis pas arrivée tout de suite à ça. J'étais quand même, bien que n'étant pas théoricienne, ayant quitté le monde de la réflexion, de les théoriques, de l'essai, ce qui n'a pas été si simple parce que j'ai une formation, j'ai fait une thèse universitaire. Donc, c'est plus ma langue. Mais quand je voulais parler des écoles d'art, cette langue proche de l'essai, d'une certaine théorisation, elle revenait quand même. Or, je ne suis pas bonne, je ne suis plus bonne pour ça. Et donc, j'ai beaucoup jeté. J'ai beaucoup, avant d'arriver à cette forme un peu avec des personnages, j'ai beaucoup essayé d'expliquer des choses. Il y avait une sorte de... point de vue, je dirais pas moral, mais quand même un peu, explicatif, analytique, dans lequel, en fait, c'était moi qui l'écrivais, mais je ne me reconnaissais pas. Donc, à un moment, j'ai jeté tout ça. Et à vrai dire, la forme que le livre a maintenant, elle est venue parce que j'ai réussi, pendant un été, à m'installer dans le canapé d'amis dans un endroit qui n'était pas chez moi, en me disant, on va voir pendant ce temps si j'arrive à faire quelque chose avec ce projet qui ne prenait pas vraiment. Et c'est arrivé simplement en laissant remonter, j'étais prof depuis longtemps déjà, en laissant remonter des choses de manière complètement désordonnée. Donc j'étais parfois la première surprise, je ne savais pas.
Les étudiants, ils existent ?
Ils existent, vous ne les reconnaîtrez. C'est, voilà, les personnages, vous savez bien qu'ils sont appuyés sur des êtres. Mais la chance avec l'écriture, c'est qu'on peut quand même mélanger, on peut prolonger, on peut modifier. Donc oui, ils existent. Il y a même des gens qui ont pu se reconnaître ou ne pas se reconnaître. Et puis... souvent, les personnages sont faits de composantes un peu éclectiques. Hein, c'est un petit peu un jeu quand même.
Vous dites dans les remerciements, les personnages sont faits d'éléments puisés dans le kaléidoscope de la mémoire qui, comme chacun sait, entremêlent, déforment, transforment, recyclent.
Oui, enfin, pour moi, c'est ça. Je suis incapable d'inventer un personnage de toute pièce. En revanche... mélanger des caractéristiques.
Les étudiants sont les principaux héros, personnages bien sûr de votre texte. Et ce qui frappe, comparé à d'autres disciplines et filières, enfin ce qui m'a frappé moi, c'est leur diversité sociale et leur diversité de parcours. Et qui sont ces femmes et ces hommes qui ne sont pas forcément tout jeunes, qui tentent l'aventure artistique?
Alors, je pense que si vous avez cette impression de diversité, de différence, c'est parce qu'en fait, dans une petite école comme celle où je travaille, on approche les gens de près. Donc, en effet, on voit un groupe, évidemment, mais très vite, les individualités sont là. Et donc, si vous me demandiez qui sont les étudiants d'une école d'art, je pourrais vous répondre personne par personne. Et c'est même ça que je serais tentée de faire. Alors voilà, c'est des gens qui peuvent être vraiment très différents, mais qui sont questionnés par quelque chose qui a à voir avec l'art. Ils n'ont pas forcément un talent artistique si évident quand ils arrivent. Ils peuvent aussi arriver là parce qu'ils ont perçu que les écoles d'art étaient des drôles d'endroits où on pouvait venir se poser des questions, parce que des copains leur en ont parlé. Et puis c'est vrai... À mon avis, on ne le fait pas assez, mais il y a toujours un petit peu des gens qui ont une vie de travail derrière eux, enfin des gens qui ont 40 ans, 50 ans, 60 ans. En ce moment, on a quelqu'un qui a plus de 60 ans, qui est en première année. Donc ça reste... C'est beaucoup plus... Maintenant, officiellement, il faut avoir le bac pour venir dans une école d'art. Il faut quand même savoir que des dérogations existent. Mais quand j'ai commencé à enseigner, ce n'était pas du tout un critère. Et donc, la diversité, la singularité sont quand même des facteurs
vous
qui comptent.
Citez, par exemple, un ouvrier des chantiers navals qui a eu envie de suivre ses études parce qu'il avait été fasciné par les magnifiques peintures d'Ivan Salomon qui représentent par exemple des containers dans des zones portuaires, industrielles, sur des quais, ce genre de choses. Bon, c'est pas dans toutes les écoles et dans toutes les universités qu'il y a des gars des chantiers navals ou quelqu'un qui était avant sage-femme. Donnez des exemples quand même de cette diversité de parcours par rapport à...
Écoutez, je ne sais pas, en ce moment, on a une femme qui était pédiatre, qui fait ses études à l'école, une dame qui a tenu un centre équestre, j'espère qu'elles ne m'en voudront pas, parce que là, je ne suis pas en train d'inventer des personnages, un monsieur qui a été professeur de géographie, on a eu des gens, on a eu aussi beaucoup des gens qui avaient mené des vies un peu marginales, et puis qui, à 30 ans, 35 ans... ou bien aussi des gens qui avaient des formations plus scientifiques. Ça reste toujours minoritaire hein, dans un groupe, mais ce qui est étonnant, et ça c'est beau dans les écoles d'art, c'est que en général, quelque chose se compose entre les personnes. Le rejet, c'est très rare. Les gens trouvent leur place. Enfin, c'est l'impression que j'ai, peut-être que je vois pas tout.
Les étudiants qui disparaissent en cours d'année, ceux qui ne mangent pas assez, ceux qui ne dorment pas, ceux qui boivent trop, ceux qui se droguent trop, ceux qui dorment trop, ceux qui ont toujours des ennuis avec leurs papiers, ceux chez qui il y a toujours des fuites d'eau, ceux qui aiment lire mais qui n'ont pas le temps, ceux qui se marient, ceux qui arrêtent, ceux qui sont tout le temps sur Facebook, celui qu'on a rencontré l'autre jour, vendeur au rayon fruits et légumes de Leclerc, un grand type qui portait toujours un petit chapeau, tu te rappelles ? Ceux qui disent « ça m'a ouvert à beaucoup de choses, c'est ce qui me permet d'être ce que je suis maintenant ». Ceux qui disent « j'étais trop jeune, je me rendais pas compte ». Ceux qui disent « ça m'a protégé ». Ceux qui disent « c'est tombé au mauvais moment ». Ceux qui disent « je n'en ai rien fait ». Ceux qui disent « je n'étais jamais à l'aise ». Ceux qui disent « de cette période, je ne garde pas spécialement un bon souvenir, je n'ai rien appris ». Ceux qui disent « c'était comme dans un homme qui dort » de Pérec. Ceux qui disent « je regrette ». Ceux qui disent « ce sont les plus belles années de ma vie ».
Je trouve que c'est un très bon moyen d'interroger la singularité du monde de l'art, saisie à partir des filières de formation, de la fabrique sociale des... Alors, je sais pas comment dire, des professionnels de l'art, ou des artistes peut-être, avec des guillemets. Ce qui est très passionnant, c'est que ces jeunes, enfin tels que vous les construisez, percevez ou traduisez, c'est à la fois c'est quand même des jeunes pour l'essentiel, des étudiants un peu comme les autres, qui par exemple se posent la question de l'avenir, des débouchés professionnels, de la rentabilité sur le marché du travail, d'un diplôme, voilà. Et en même temps, ils sont absolument conscients du fait que c'est une formation un peu singulière, qui en termes d'apprentissage, de savoir-faire, n'est pas tout à fait comme les autres. Et c'est aussi pour ça qu'ils sont là. C'est-à-dire, ils sont un peu tiraillés entre... à la fois, c'est des étudiants comme les autres, et puis en même temps, il y a cette part de singularité. Beaucoup viennent pour mener à terme un projet personnel, ou parce qu'ils sont habités par un questionnement personnel. Et je trouve ça très, très, très touchant, cette ambivalence, en fait.
Alors, je crois que je la mets en évidence. Hein. C'est-à-dire que si vous regardez le discours actuel dominant sur les écoles d'art, on va beaucoup parler du fait qu'on forme des artistes, qu'il y a un devenir professionnel des écoles d'art, pour les étudiants en école d'art. Moi, ce sont des choses qui me gênent. Je ne pense pas qu'on forme des artistes, on forme des gens. Et puis, certains deviennent artistes. Mais en effet, en tout cas, ce que moi je perçois de manière aiguë, c'est ce questionnement sur quoi faire de la vie, qui existe à peu près chez tous les gens jeunes, mais après que chacun aborde avec plus ou moins d'inquiétude, déjà de connaissance de ce qu'il souhaite faire. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup de gens hésitants et que ce qu'on pratique dans une école d'art et les questions qu'on se pose, ces gens qu'on croise, eh bien, si ça n'amène pas, en tout cas de mon point de vue, parce que des tas de gens me contrediraient, à devenir artiste, forcément, ça ouvre des possibilités d'engagement vers toutes sortes de domaines liés à l'image, liés à des pratiques de sculpture, d'artisanat, etc. C'est un endroit où on peut venir un peu prendre du temps pour chercher sa voie, je pense.
Mais ça, c'est aussi visiblement... une des particularités des écoles d'art est ce qui peut stimuler, embarrasser, angoisser justement les étudiants avec, on y vient, la notion d'apprentissage et comment on apprend l'art au XXIe siècle, avec ce côté injonction souvent des profs, cherche ta voie, trouve-toi toi-même, etc., etc. Et donc, en même temps, vous citez vos confrères et consoeurs, en tant qu'enseignants, qui disent parfois on passe sa vie à se demander ce qui est de l'art et ce qui n'en est pas. Alors comment est-ce qu'on enseigne l'art au XXIe siècle ? Question d'actualité, puisque le centre Pompidou de Metz propose jusqu'à la fin du mois d'août une expo qui s'appelle « L'art d'apprendre, l'école des une école des créateurs.
Oui, mais je ne vais pas avoir le temps de faire un grand développement sur cette vaste question. Comment on enseigne là, comme on peut, j'ai envie de dire, depuis l'endroit où on se questionne sur l'art. Vous savez bien que depuis maintenant presque 200 ans, enfin 150 ans, il y a une sorte de rupture qui s'est faite entre le savoir-faire technique qui a quand même longtemps été aussi entre les mains des artistes et puis l'imagination.
Technique, c'est-à-dire peindre,
voilà,
sculpter.
Être peintre jusqu'au milieu du 19e siècle, même si effectivement il y a une question, il peut se poser des questions d'invention, de spécificité, d'originalité, mais c'est d'abord un savoir-faire. Enfin, on sait tout autant un savoir-faire, et on pourrait dire la même chose pour la sculpture, etc. Et il y a, voilà, le XXe siècle, et c'est pas simplement l'art tout seul qui a produit ça, une séparation s'est faite quand même entre la question de la maîtrise technique, de ce que les machines ont rendu possible, des choses qu'on n'a plus besoin de faire à la main, enfin tout ça, ça se tient. Et le fait que la liberté d'expression artistique a aussi cherché d'autres formes qui ont fait exploser quand même la tradition. Donc nous, on est dans la prolongation de tout ça, et mes collègues, je dirais de la génération, même pas la génération d'avant moi, un tout petit peu plus vieux que moi, ont souvent été des gens qui ont eux-mêmes été formés classiquement et ont envoyé promener cette formation pour prôner une forme de liberté dans leur enseignement. Et nos étudiants sont, et nous sommes, tiraillés entre la conscience que faire est aussi une question qui taraude les gens qui sont prises avec la forme, et bien faire, et trouver comment faire. Cette idée quand même que l'art aujourd'hui, c'est lié à l'idée, à une sorte d'imagination qui peut être très dématérialisée. On se questionne beaucoup sur la place des techniques dans l'école. Ce que vous citiez, qui est quelque chose qu'on voit, qui est récurrent dans l'école, de dire on laisse les gens chercher plutôt que de leur apprendre comment faire, et on essaie de les accompagner dans leur recherche. Bon, ça a des limites, hein, mais de même que imposer un apprentissage technique va aussi constituer un cadre qui va donner d'autres limites, hein. Donc on essaie de faire dialoguer ces deux façons d'entrer là dans la pratique.
Je voudrais citer deux extraits de votre livre, les étudiants, un qui dit ou une, avec le prof de dessin on fait de l'écriture, avec le prof de sculpture on fait du dessin, avec le prof de peinture on fait du son. Un autre dit, il faudrait peut-être d'abord apprendre à peindre et à sculpter, et seulement après, se poser des questions et critiquer. Qu'est-ce que je peux proposer si je ne sais rien faire? Et d'autres qui disent, on passe notre temps à parler et à s'expliquer.
Je crois que ce que vous venez de dire illustre ce que j'essayais d'expliquer, hein. C'est-à-dire on est pris dans des paradoxes, on en a quand même conscience. Certains étudiants peuvent se trouver très mal à l'aise aussi, hein. C'est un endroit où on est secoué, une école d'art, hein. C'est quand même la première chose qui se produit en général pour les gens qui arrivent là, ça les dérange. On arrive toujours avec une idée de l'art, tout le monde a une idée de l'art, hein, mais personne n'a la même. En tout cas, il y en a de toutes sortes. Et donc, c'est la première chose qu'on demande, c'est même pas qu'on la demande, c'est ce qui se produit. C'est pas comme, quand un étudiant arrive, c'est pas comme il croyait. Et s'il s'accroche à ce qu'il sait déjà et qu'il veut pas lâcher prise, ça, il va partir, parce que il faut se laisser un peu immerger dans toutes sortes de flottements.
Les études durent 5 ans, il y en a beaucoup qui partent avant ?
Oui, il y en a beaucoup qui partent pas aussi, et qui devraient peut-être partir. C'est long 5 ans, hein. C'est long, on travaille quand même beaucoup avec ce qu'on a en soi, Et alors c'est pareil, hein, on ne pense pas tous la même chose évidemment. Moi je pense que c'est un peu dommage que les gens ne fassent pas plus de pauses. Il y a deux cycles, hein, c'est 3 ans puis 5 ans. Fassent pas plus souvent une pause au bout de 3 ans pour réfléchir à voir s'ils veulent revenir faire ces deux dernières années qui sont vraiment des années qu'on pourrait dire de recherche à partir d'un fond personnel quoi, qu'on met en dialogue avec toutes sortes de choses. Mais... Et voilà, donc bien sûr, des tas de gens se réorientent quand même au bout de 3 ans, mais beaucoup de gens restent.
Christian.
Oui, je trouve vraiment très, très passionnant d'observer. Côté étudiant, et j'ai envie de dire à hauteur d'étudiant, l'espèce d'inconfort, d'insécurité à laquelle ils sont confrontés du fait des incertitudes qui pèsent sur ce qu'est l'art, sur l'incapacité qu'ont nos sociétés modernes à définir l'art. Effectivement, on voit bien que tout ce milieu est un peu travaillé dans les extraits que lisaient collègues, c'était très évident, par la nostalgie d'une période où l'art, on savait ce que c'était peindre, dessiner, sculpter, etc. Et c'était des apprentissages concrets qu'on pouvait définir. On n'en est plus du tout. Et donc, évidemment, en vous lisant, je pensais beaucoup aux travaux de Nathalie Hennick. Et aussi, peut-être pour rapatrier ça du côté de ce que je connais un petit peu, aux travaux de Luc Boltanski et Eve Capello sur le nouvel esprit du capitalisme et sur la façon dont, je les cite, hein, le monde de l'art a imprégné la société dans son ensemble, hein, les grandeurs artistiques, le rapport à l'art devenant quelque chose de valorisé dans le monde, la créativité par exemple, hein, aussi bien dans le monde des entreprises, de l'administration, etc. Hein, donc, pour résumer cette thèse, le monde de l'art qui, au début du XXe, était à part, hein, est devenu aujourd'hui un des moteurs du capitalisme dans ses dimensions les plus ordinaires. Et je trouve que École d'art, d'une certaine façon, était un texte très boltanskien, parce que on voit effectivement ces jeunes qui, pour leur majorité d'entre eux, anticipent le fait qu'ils ne seront pas artistes au sens classique du terme, c'est-à-dire exposant des œuvres, etc. Et ils se demandent un petit peu où la société va les loger, où est-ce qu'ils vont faire leur trou, sachant que le champ des possibles est très très large, ce qui tout à la fois leur permet de formuler des espoirs, mais en même temps les angoisse beaucoup, quoi. Donc l'art est un peu liquide ou un peu gazeux, je ne sais pas comment dire. En tout cas, il est désinstitutionnalisé, ça c'est clair.
C'est vrai, bien sûr, mais il est aussi institutionnalisé. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de... ce modèle de l'artiste qui va réussir en vendant cher des œuvres, comme fait Jeff Koons, comme font quelques-uns, il est très présent aussi. Et,
mais comme mythe mobilisateur ou...
Ouais. Et peut-être plus qu'il y a 20 ans, enfin, je veux dire, il y a une puissance de cette idée de marché de l'art qui est un peu ravageuse de mon point de vue et qui, qui est une des dimensions aussi de la discussion, des polarisations dans les écoles d'art. Parce que c'est vrai que ça peut être très rassurant dans un premier temps, de s'engouffrer dans une sorte de mimétisme de ce que font les artistes qui exposent en galerie, de rêver à ça. Et il y a des structures pour ça. Hein. Les étudiants, quand ils sortent des écoles, sont accompagnés, peuvent l'être institutionnellement pendant tout un temps. Et moi, je suis du côté de gens qui sont très méfiants vis-à-vis de ça. Hein, et je comprends mieux le malaise de certains face à cette proposition d'entrer dans un marché de l'art ou une imitation du marché de l'art ou succès d'année. Et puis bon, il faut être fort. Hein, je veux dire, il faut être fort. Bien sûr, il faut être fort il faut être fort humainement pour tenir le coup dans la pression des histoires de marché, de collectionneur.
De réussite.
De réussite. Hein,
de médiatisation.
Oui.
Un des étudiants que vous citez dit aussi, le prof de volume dit que la représentation d'une personne, d'un objet, d'un paysage, etc., ce n'est plus de notre époque. Aujourd'hui, c'est la présentation qui compte, se mettre en scène.
Oui, mais c'est pas seulement dans l'art. Hein.
C'est pas seulement dans l'art.
Ouais, mais évidemment, dans l'art, c'est au centre. Hein. Et donc la question, mais je veux pas avoir l'air de ne dire que du mal du fait qu'on se penche sur cette question, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, présenter quelque chose, organiser un espace, enfin, vous savez que un des modes d'expression artistique, c'est l'installation. L'installation, c'est justement comment différentes composantes qui peuvent être picturales, sculpturales, objets trouvés, etc., vont prendre place dans un espace. Donc, c'est comme si l'idée de l'exposition envahissait l'objet lui-même. Et aujourd'hui, ben oui, dans les écoles d'art, on consacre du temps aux questions d'accrochage, énormément de temps, aux questions de présentation.
Et de discours.
Et de discours. C'est souvent très ambigu. Et c'est très intéressant, mais c'est difficile à vivre pour des gens jeunes qui, quand ils n'ont pas beaucoup d'expérience.
Vieux aussi, je pense.
Vieux aussi, mais je veux dire.
Ce qui est frappant, c'est que pour des jeunes qui souvent sortent du lycée, l'expérience de l'école d'art, c'est une expérience un peu d'anomie. C'est-à-dire, il y a peu d'heures de cours, souvent c'est des ateliers où l'assiduité n'est pas contrôlée. Là, pour le coup, je retombe sur une sociologie très basique de la condition étudiante, mais beaucoup sont déstabilisés par l'expérience de la liberté aussi, je pense.
Il y a ça, en effet. Mais moi, je dirais qu'on propose beaucoup de choses aussi. En effet.
C'est quand même à eux.
Ouais, on part du principe.
Ils aimeraient bien, on voit bien, de temps en temps, ils aimeraient bien pouvoir s'adosser à des contenus, à des exercices un peu classiques, un peu académiques, et ils sont condamnés à être libres.
Non, il y a quand même. Justement, c'est des choses qui reviennent. Et c'est des grandes discussions voilà, entre les écoles, hein. Mais il y a quand même un cadre en première année qui est très très, là je suis en train un peu voilà, qui remplit l'emploi du temps, d'initiation à toutes sortes de médiums, hein, et la liberté, évidemment il y a des gens qui ont envie de l'apprendre tout de suite, et puis parfois ils ont raison, et puis il y a des gens qui en font un mauvais usage. C'est vrai que c'est aussi un des problèmes. Est-ce qu'on, nous, on doit encadrer, imposer, rendre la présence obligatoire? Je veux dire, on peut considérer que si quelqu'un vient dans une école d'art et qu'il n'est pas capable de s'imposer lui-même une certaine rigueur, c'est sans doute qu'il n'est pas fait pour être là. Bon, tout le monde n'a pas le même avis là-dessus. En effet, c'est une expérience de la liberté, mais beaucoup de choses sont proposées aujourd'hui dans une école d'art.
Parce que vous écrivez, c'est quand même plutôt ça.
On fait une pause musicale de Jam, qui nous interprète Art School.
This is a new art school.
C'était The Jam avec le titre Art School. Vous écoutez Canal B sur 94.0 et c'est le début de la deuxième partie de Chercheurs en ville, émission consacrée à la recherche universitaire. Et aujourd'hui, on reçoit Christine Lapostole, enseignante à l'ESSAB de Quimper, l'École européenne supérieure d'art de Bretagne. Et c'est également l'autrice d'École d'art, Portrait du Nil, paru en 2018 aux éditions MF. Après avoir dressé le portrait des étudiants et évoqué leur arrivée dans un endroit qui les secoue, il va être question de l'arrivée des techniques numériques dans les écoles d'art et d'une forme de rejet de celles-ci. Et puis il y a l'enseignant et son évaluation, questionnée également par l'ouvrage de notre invité.
Les temps changent, les choses ont changé. Christine Lapostole, ce constat traverse tout votre livre. Avant, aujourd'hui, visiblement c'était différent. Les élèves remarquent, par exemple, qu'un prof dit un truc et un autre dit le contraire. Vous évoquez un écart, un gouffre générationnel entre vous et vos étudiants. Vous dites que le stock des références communes est chahuté. L'histoire de l'art était parfois un carcan, mais comment faire sans un socle commun ?
Alors, cette histoire, c'est une affaire de rapport au présent. C'est-à-dire que la question du présent, elle est là de manière aiguë dans les écoles d'art. Chercher des choses sur le terrain artistique, c'est quand même se mettre en résonance avec le temps dans lequel on est. Et ce temps, eh bien même à l'échelle de 30 années, qui est à peu près l'échelle de ma vie dans une école d'art, il change. Et par ailleurs, les profs vieillissent ou des profs plus jeunes arrivent. Donc, on pourrait parler de choses en termes de mode, mais c'est pas exactement ça. C'est qu'on est pour eux, on n'est pas pour eux de la même façon à 30 ans ou à 40 ans. On n'est pas pour eux aux mêmes choses. Et moi, la période que j'ai connue dans les écoles d'art, c'est celle de l'arrivée du numérique. Enfin, j'ai connu avant le numérique. La perspective de tout ce qui allait nous arriver par l'ordinateur, cette espèce de rêve de dématérialisation qui était très présent dans les années à la fin des années 90, avec des gens qui, peut-être que je dévie par rapport à ce que vous me disiez, mais bon, j'ai envie d'en parler un petit peu, avec des gens qui s'intéressaient à bidouiller les moyens technologiques, justement à comprendre le numérique. Aujourd'hui, le numérique, il est installé partout. Il y a très peu de gens qui savent ce qu'il y a, comment ça fonctionne. Donc, si vous voulez, ça a changé. Quand on était au bord de cette situation, il y avait une curiosité de comment ça marche, qui s'est vraiment estompée. Et on voit revenir, un goût pour le fait de faire, par exemple.
Et faire avec quoi, par exemple ?
La céramique. La terre, actuellement, alors on pourrait dire, j'enseigne à Quimper, il y a toute une tradition. Non, c'est pas à Quimper, c'est vraiment très présent dans le monde de l'art en ce moment, ce retour à la terre qu'on aurait, franchement, je pense que c'était difficile à imaginer il y a 30 ou 40 ans que les artistes allaient revenir à... On comprend, hein, il paraît qu'on a été fabriqué avec de l'argile à l'origine, donc on comprend. Mais donc, c'est pour dire que il y a des temporalités bizarres. Enfin, que le changement du présent, il se manifeste de manière très très palpable et composite dans une école d'art. Et en même temps que se produit ce que je décris, il y a ce rapport à l'héritage de la culture classique, en termes d'histoire de l'art, littéraire, etc., qui est profondément chahuté, pas seulement dans les écoles d'art, hein, mais...
Avant, on disait école des beaux-arts.
Voilà. On a perdu ça en route. En fait, on dit Beaux-Arts, je suis aux Beaux-Arts. Mais on dit, les écoles ont changé, elles sont devenues supérieures, elles sont devenues européennes, elles sont devenues internationales, et elles ont perdu le beau de Beaux-Arts. C'est un peu logique. En même temps, la question du beau, elle travaille les gens, malgré tout. Mais elle est difficile.
Vous parliez du numérique et en même temps, le numérique change les apprentissages c'est vous qui le dites dans votre livre, que les étudiants sont un peu des fouineurs, des chineurs, que les grands noms, ils les découvrent ou pas, mais ce qui compte peut-être surtout, c'est le clip ou le poste d'un ami ou d'un artiste qu'ils aiment bien.
Oui, alors là, ce n'est pas la technologie, c'est ce que sert le numérique. Hein. On fait tout ça, hein. On va tous sur Internet chercher des trucs aujourd'hui. Et donc, effectivement, c'est la première ressource de découverte pour les étudiants, si bien que très souvent, on nous ramène toutes sortes de références que nous, on ne connaît pas. Et évidemment, la question du fond commun a été déstabilisée par cette façon-là de chercher, qui est très rapide, qui est très superficielle, mais qui peut être aussi étonnante et faire apparaître des choses qui vont résonner avec des préoccupations d'étudiants avec justesse, enfin. Mais oui, ça secoue, puis ça change les choses, mais ça, tout le monde le sait, tous les enseignants savent, en termes d'attention, en termes de... Donc oui, on vit un grand chambardement de ce côté-là.
Et en même temps, enfin, moi j'observe à Sciences Po Rennes le même mouvement de reflux par rapport au numérique. Là, j'ai une étudiante cette année qui travaille sur les diplômés de Sciences Po qui choisissent l'agriculture, la boulangerie, l'artisanat, CAP cuisinier, etc., après avoir fait Sciences Po, et qui tiennent tous le même discours, c'est-à-dire « je ne veux pas passer ma vie derrière un écran d'ordinateur », l'écran d'ordinateur devenant non plus le symbole de la création et de la projection de la singularité personnelle, mais au contraire le symbole de la standardisation et de l'aliénation, quoi. Donc je pense que c'est un peu des mouvements générationnels.
Oui, c'est sûr. Et qui s'exprime, peut-être que je pense que les écoles d'art ont été un peu le creuset de tout ça. Et effectivement, on sait que maintenant, dans les grandes écoles, enfin, dans des gens qui ont travaillé quelques années en sortant d'écoles prestigieuses, beaucoup de gens ont complètement changé de mode de vie, comme vous dites. Nous, on a toujours un peu connu ça dans les écoles d'art, parce que c'est ce qu'on disait au début. On n'est pas forcément dans une école d'art parce qu'on rêve de devenir Jeff Koons. Hein. Donc, il y a toutes sortes voilà, de départs comme ça vers des choses où le faire avec les mains ou avec la terre est très important. Et effectivement, alors moi ça me gêne un peu en même temps, ça me gêne un peu, cette façon, je crois qu'on questionne plus beaucoup l'outil numérique. Or, on a beau vouloir rompre avec, on a tous des téléphones portables, on a tous des ordi, rares sont ceux qui n'ont pas de téléphone portable, je devrais dire. Et donc, on pourrait dire aussi, ne pas s'équiper pour savoir les tenants et les aboutissants de tout ça, de quoi c'est fait, comment on peut le bidouiller. C'est peut-être un peu dommage, mais voilà, on se débrouille comme on peut. Hein.
Les collègues caractériels, les collègues toujours de bonne humeur, les collègues qui se plaignent tout le temps, les collègues engagés, les collègues qui font rire les autres, les collègues qui lisent toutes les circulaires en détail, les collègues qui souffrent en silence, les collègues qui ont plein d'expos, les collègues qui jouissent d'une réputation internationale, les collègues qui n'ont jamais d'expos, les collègues qui ont des enfants, les collègues qui n'en ont pas, les collègues qui gardent le secret sur leur activité, les collègues qui disent que vous les avez trahis, les collègues qui vous trahissent, les collègues qui ne viennent jamais aux réunions, les collègues qui vous piquent votre salle sans rien dire, les collègues avec qui on a envie de travailler, les collègues qui aiment bien manger, les collègues qui préfèrent la cantine, les collègues qui aiment boire, des collègues, on les aime, mais on n'arrive jamais à les voir. Les collègues qui vont toujours aux fêtes des étudiants, les collègues qui empruntent beaucoup de livres à la bibliothèque, les collègues qui nous quittent pour une autre île, les collègues nouveaux qui arrivent.
Jusqu'à présent, dans cet entretien, on a beaucoup évoqué les étudiants. Évidemment, il y a ô combien les profs. Dans votre livre, il y a bien sûr des témoignages saisissants d'étudiants qui ont été profondément marqués par un cours ou par un enseignant, des choses qui marquent à vie. Il y a aussi des remarques très acerbes. Par exemple, certains disent... Les profs emprisonnent les élèves dans leurs cours. Ce n'est pas l'école des élèves avec leurs envies et leurs ambitions. C'est l'école des professeurs qui célèbrent leur messe. Un autre dit aussi, mais pourquoi ils font ce boulot de prof? C'est parce qu'ils ne gagnent pas d'argent en tant qu'artistes. Mais ça, ils ne te le disent jamais en face, ils devraient le faire. Commentaire, et comment vos confrères et vos consoeurs enseignants ont-ils réagi en lisant École d'art, après avoir lu École d'art?
Oh ben, ils ont réagi de manière variée, parce que c'est des gens très différents les uns des autres. Donc, voilà, ça a donné lieu. À vrai dire, dans la fabrication même de ce livre, comme je vous l'avais dit, c'est un livre que j'aurais aimé pouvoir écrire avec d'autres. Et donc, je l'ai beaucoup fait lire à des gens dont j'étais proche, hein, mais à des gens qui travaillaient dans les écoles d'art, et j'ai beaucoup écouté leur retour pour déranger ce que j'étais en train d'écrire. Donc je peux dire que voilà, il y a une partie des gens que je connais qui enseignent dans les écoles d'art qui sont intéressés par le fait que j'ai trouvé cette forme littéraire pour parler de ce petit monde dans lequel on est. Et puis j'étais quand même... Et bon, ça a donné lieu à des, je sais pas, à des expériences, enfin des choses qui sont issues de ce livre sous forme de workshop, de travail avec des étudiants qui étaient très chouettes. Mais j'ai quand même aussi été étonnée d'une forme de silence de la part de pas mal d'entre eux. Je m'attendais un peu à de la polémique, enfin, ou à ce qu'on m'invite pour discuter. Et je trouve que ça n'a pas... Les gens qui approuvaient ont fait des signes, mais ça n'a pas vraiment... Il y a plutôt eu une fin de non-recevoir vis-à-vis des gens qui n'auraient pas été d'accord, si on peut dire, parce que c'est quand même un point de vue hein, que j'adopte, et c'est subjectif.
Moi, une des choses qui m'a le plus intéressé, c'est ce que vous suggérez sur la relation prof-étudiant. Parce que j'ai l'impression que dans les écoles d'art, cette relation, elle est presque épurée de toute une série de... La matière enseignée ne fait pas obstacle à une relation personnelle, on pourrait dire ça comme ça. Il y a une dimension des deux côtés, hein, de célébration de la singularité, voire de charisme, la figure du prof pouvant être associée à celle du créateur, en fait, etc. Donc je trouve qu'il y a des imputations charismatiques souvent très fortes et qui créent aussi les conditions d'une... parfois d'une dépendance très forte des élèves par rapport aux profs. Hein. Et je dirais que l'envers du décor, c'est aussi les affaires de harcèlement qu'il y a eu dans pas mal d'écoles d'art ou dans d'écoles qui accordent beaucoup d'importance à la créativité. Et ça, je dirais, c'est intéressant parce que c'est presque sur un mode idéal typique une réflexion sur la relation pédagogique en général. Mais là, elle est, je dirais, dans sa nudité presque brutale, avec tout ce que ça rend possible du côté des étudiants en termes de fragilité.
Ouais, on pourrait dire que c'est une relation rapprochée. Hein. Je pense que c'est les questions de rapport enseignant-étudiant, charisme, fascination, etc. Ils existent toujours, mais dans
là,
une école d'art,
voilà.
C'est-à-dire que très souvent, de toute façon, la situation, c'est qu'un prof se trouve dans l'atelier de l'étudiant en tête à tête avec le travail de cet étudiant. Et l'étudiant ou l'étudiante hein, n'a pas beaucoup de distance avec ce qu'il fait, forcément. Hein. Donc, il y a évidemment toute une dimension émotionnelle, intime, psychologique, qui est à prendre en compte hein, la fragilité des gens. Donc, voilà, nous avons tous des attitudes différentes par rapport à ça. C'est vrai qu'il y a voilà, des gens qui aiment jouer de leur charisme et d'autres moins. Et puis parfois, on ne choisit pas parce que aussi ce qui se passe dans la tête des étudiants et des étudiantes, ça nous échappe. Hein. Donc effectivement, le fait de travailler aussi près de son fond personnel, de son intimité, crée des situations qui peuvent être très troublante hein, pour tout le monde, à quoi voilà, on fait attention tout de même, hein, mais bon, il ne faut pas croire qu'on n'enseigne rien non plus, il y a quand même il y a des choses qu'on apporte, c'est pas forcément du savoir, enfin, il y a du savoir, mais c'est des questions, c'est des attitudes, des propositions pour essayer des choses, mais c'est vrai que cette question de à quelle distance on est, elle est pas simple dans une école.
Elle vous intéresse beaucoup. Moi,
elle m'intéresse beaucoup.
Vous en parlez beaucoup dans les...
Elle m'intéresse beaucoup. Je dois dire que je tiens mes distances. J'ai toujours vous voyez les étudiants, ce qui en général ne se fait pas dans les écoles d'art. Je tiens mes distances, mais je suis très intéressée par les gens. Enfin, en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est comment ces personnes auxquelles j'ai affaire abordent la vie. Et donc, mais je fais, comme je m'occupe maintenant d'affaires d'écriture, je fais très attention à ne pas aller sur des terrains où ils seraient amenés à épancher des choses intimes. Enfin, quand même, quand on est en position d'enseignant, on peut aussi... faire des choix, se placer à certains endroits et pas à d'autres. Mais effectivement, c'est très... Bon, c'est des choses qui ont bougé aussi dans le temps. C'est ce côté fascination d'un maître. Je pense que c'est des choses dont on jouait beaucoup plus il y a 20 ou 30 ans. Maintenant, on travaille beaucoup à plusieurs enseignants aussi et on incite les étudiants, on fait des choses pour que les étudiants travaillent à plusieurs parce que vraiment cette dimension individuelle est toujours avec soi-même, etc. Il faut la désacraliser, quoi. Mais on doit se débrouiller effectivement avec cette question de la proximité. Ouais.
C'est par exemple la question de l'évaluation qui dans les écoles d'art est un peu évidemment une question très très compliquée. Moi, si j'explique à un étudiant pourquoi il n'a pas la moyenne, pourquoi il a la moyenne, je le convainc que un autre enseignant que moi aurait mis une note proche. Évidemment, la subjectivité de l'évaluation associée à tout ce qui est production artistique fait que voilà, on est dans un monde qui repose beaucoup plus sur des sensibilités subjectives que sur des critères objectifs. En tout cas, il me semble que c'est ce que vous avez aussi souhaité donner à voir dans le livre.
Oui, c'est-à-dire il y a des critères objectifs, il y a la subjectivité et on navigue. C'est compliqué pour les étudiants. Alors, dans un ensemble, dans une école, quelle qu'elle soit, il y a plein de personnes. Donc il y a aussi... Enfin, il y a plein de personnes. Je veux dire, les enseignants n'ont jamais tous le même point de vue. Et donc, les étudiants, ils ont à comprendre, en général, même s'il n'y a pas ces histoires de maîtres, de gourous, etc., un étudiant ou une étudiante qui va rester un certain temps dans une école, il va avoir des affinités avec des profs, et puisqu'on peut dire des choses extrêmement contradictoires les uns et les autres, il va comprendre que lui ou elle, ce qu'il cherche, ça résonne avec la manière de regarder les choses d'un tel ou d'un tel. Donc mais ça va changer aussi parce que voilà, ces gens de 20 ans ou 22 ans, ils se transforment. Hein. Donc on peut aussi être très proche d'une forme de sensibilité qui émane d'un groupe de profs à un moment, puis au contraire, après, avoir besoin d'aller ailleurs. Donc on offre, effectivement, la notion d'évaluation, elle est très présente maintenant, comme partout. Et elle est très difficile à définir dans nos écoles. Mais bon, on est aussi capable d'évaluer si quelqu'un s'implique dans ce qu'il fait ou pas, s'il nous mène en bateau,
parcours, son évolution.
Voilà, son évolution. Et on essaie d'être regardé de près les choses. Formuler de l'extérieur les termes de notre évaluation, ça serait bien difficile. Ouais.
Comment vous avez pris goût au cinéma ?
C'était Les Demoiselles de Rochefort, et qui, je pense, restera le film de ma vie.
Je suis arrivé à la fac en septembre, j'ai fait, voilà, j'ai du matériel. Qui sait qui veut faire des courts-métrages ?
Je pense que quand même, son rejet du baiser de Quentin est assez violent.
Et je me suis dit, mais je me vois que 10 ans plus tard, être sur un plateau, en train de faire un projet, en train d'écrire.
Et ce à quoi il lui répond d'un temps totalement naturel, mais je suis un cheval.
Sur ce thème de l'évaluation, peut-être vous avez vu ce très beau film de Claire Simon qui s'appelle Le Concours. L'entrée à la FEMIS, une des plus grandes écoles de cinéma en France, et où on voit, alors là c'est le concours d'entrée, et on voit comment des jurys, de mémoire les élèves, quand ils arrivent à décrocher le gros lot, ils passent au moins devant 3, peut-être 4 ou 5 jurys, et on voit les discussions des membres du jury, sauf du jury final. Et moi j'ai trouvé ça, moi qui ne suis pas du bâtiment artistique, je trouvais ça très intéressant de voir aussi comment des enseignants qui sont réalisateurs, qui sont comédiens, qui sont preneurs de son, enfin, etc., parlent de la personne, comparent, retranchent, rajoutent. C'est pas du tout petit bonheur la chance. Enfin, y a vraiment des discussions entre eux, des enjeux importants. Enfin, moi, j'avais trouvé que c'était quelque chose qui donnait à voir la réflexion sur un sujet aussi sensible, effectivement, que l'évaluation.
Elle a très, très bien capté ça, Claire Simon. Et c'est vrai que nous, enfin, on peut se reconnaître hein, quand on travaille dans une école d'art, dans ce qu'elle montre de ce concours d'entrée. Mmh. C'est-à-dire que si on devait rendre compte à des gens complètement extérieurs à notre petit monde des critères qui font qu'on a choisi un tel et pas un tel, ce serait extrêmement difficile parce qu'il peut y avoir des paramètres qui semblent, dans le cadre de la FEMIS, ne rien avoir à voir avec le cinéma, mais on va se dire celui-là, pendant 10 ans, il a été maçon, enfin je dis n'importe quoi, et bien ça va être intéressant, mais ça se comprend de l'intérieur et ça se comprend aussi dans un groupe qu'on est en train de constituer. C'est facile, en fait, de dire que c'est n'importe quoi. Et ce qui était formidable dans le film de Claire Simon, c'est qu'elle montrait, au contraire, comme la chance qu'on a dans des endroits comme la FEMIS, donc qui sont évidemment très, très, je dirais, prestigieux, mais même dans nos écoles, on peut faire du travail de détail, quand même, dans l'approche. Alors, on se trompe, on fait des bêtises, hein, comme partout. Mais,
à propos d'évaluation, les étudiants ironisent parfois en disant... les profs, leurs travaux, ils ne les montrent jamais. On ne sait pas ce qu'ils font. Si ça se trouve, c'est nul. Vous enseignez le langage et l'écriture. Et en publiant, par exemple, École d'art, ou plus récemment, Temps permettant, qui est une expression marine, pour évoquer Brest, la ville et le port vus de la fenêtre de votre appartement, vous avez pris le risque de ces livres, vous vous êtes exposé. Qu'en ont dit les élèves quand ils ont lu, quand ils lisent vos textes?
D'abord, ils m'en ont pas forcément parlé à moi. Alors, on a un bibliothécaire formidable dans notre école, donc qui sait très bien faire circuler les livres, mais qui maintient la discrétion si les gens le souhaitent, parce que c'est intimidant pour certains. Puis beaucoup d'étudiants ne s'intéressent pas du tout, je pense, aux livres que j'écris. Mais c'est plus facile, par exemple, avec d'anciens étudiants. Quand j'ai publié École d'art, ça c'était très beau d'ailleurs. Hein, j'ai eu plein de retours de gens que j'avais eu comme étudiants il y a longtemps, quoi, il y a 10 ans, il y a 15 ans. Et eux, lire ça les intéressait vraiment. Ça les faisait revisiter des choses qu'ils avaient connues. Je ne suis pas sûre que... Je ne sais pas. Qui les lit mes livres. De temps en temps, un étudiant ou une étudiante m'en parle, mais on ne s'occupe pas trop de ça. C'est peut-être que le bibliothécaire de l'école en sait plus que moi là-dessus.
Demandez-lui.
Et c'est vrai que c'est drôle, les pratiques, parce que tous les gens qui enseignent dans les écoles d'art ont quand même plus ou moins des pratiques artistiques, et c'est pas du tout facile, c'est pas facile, et c'est pas facial la façon dont on présente ce qu'on fait aux étudiants. On se pose entre nous des questions. Comment on devrait faire? Maintenant, il y a Internet, donc les gens, s'ils veulent savoir des choses, puis mes collègues font des expositions, ils peuvent aller les voir. Mais ce n'est pas des choses qui sont si évidentes que ça dans nos relations. Et c'est comme une sorte d'arrière-plan, enfin, dont on ne sait pas tout. On ne sait pas ce qu'ils fabriquent, les étudiants, avec nos travaux.
Et de publier École d'art, c'était, passez-moi l'expression, c'est culotté de votre part de faire ça. Est-ce que ça vous a donné de la force, donné plus de doutes, donné de la fragilité, je ne sais pas?
De toute façon, des doutes, non, j'en ai toujours, ça ne m'en a pas donné plus. Ça m'a donné de la force, je ne sais pas, ça m'a rapproché quand même de certaines personnes qui avaient des questionnements du côté étudiant, un peu du même ordre. Donc il y a quand même eu des groupes d'étudiants qui se sont emparés de ce livre pour s'en servir entre eux. Non, je pensais que j'allais arrêter de faire ce métier en publiant ce livre, je me disais, ça doit... Puis non, je continue.
Merci infiniment, Christine Lapostole. Je rappelle que vous avez publié aux éditions MF École d'Art, qui coûte 14 euros, et Temps Permettant, qui coûte 15 euros. Merci à Christian Lebar et merci à notre réalisatrice Lucie Louapre. Et à bientôt pour une prochaine émission de Chercheurs en Ville sur Canal B.
Merci beaucoup.